Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la Genèse. Nous allons continuer notre étude. Et aujourd'hui, nous sommes dans Genèse 14. Genèse 14, que nous allons lire. Donc, Genèse 14, verset 1. Dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjok, roi d'Elassar, de Kedorlaomer, roi d'Elam, et de Tidéal, roi de Gojim. Il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Bircha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adma, à Shemeber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, qui est Tsoar. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche, et ils bâtirent les Réphaïm à Ashtéroth-Carnaïm, les Uzim à Ham, les Emim à Shaver-Kijataïm, et les Horiens dans leur montagne de Séir, jusqu'aux chênes de Paran, qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent, où ils firent demi-tour, vinrent à Mishpat, qui est Kadès, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à Hatsatson Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm, et le roi de Béla, qui est Tsoar. Et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kedorlaomer, roi d'Elam, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinéar, et Arjok, roi d'Elassar, 4 rois contre 5. Verset 10. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chênes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Tchoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre, dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit : Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de souliers, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshkol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. » Et c'est la parole de Dieu. Donc nous arrivons ici dans ce chapitre 14 et nous voulons voir ce matin, et c'est le titre de notre message, des rois, un roi, le roi. Et vous allez voir à mesure qu'on développe. Mais en guise d'introduction, on va faire un petit peu de révision. Abraham est remonté d'Égypte. Il est remonté à la fois de manière physique, mais aussi de manière spirituelle. En termes modernes, on dirait qu'il s'est reconsacré. Je ne sais pas si c'est vraiment biblique, mais ça vous donne un peu l'idée. Selon la Bible, il est revenu au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Chapitre 13, verset 4. Et c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Abraham est remonté d'Égypte très riche, en troupeaux, en serviteurs, en argent et en or. Lot aussi, son neveu qui est avec lui, était très riche et cela entraîna une situation de tension. Car, nous dit Moïse ici, la contrée était insuffisante pour les deux. Verset 6 du chapitre 13. Et au lieu de faire la guerre, c'est intéressant qu'on va voir des guerres dans un moment, mais au lieu de faire la guerre, Abraham montre que pour lui, la vraie bénédiction ne réside pas dans la prospérité ou la richesse. Et ça, c'est vraiment la leçon de tout le passage que nous avons vu. Enfin, tout au moins, la première partie de la leçon. Il n'a pas besoin de ça. Et ce faisant, il invite Lot à se séparer de lui et il lui offre de choisir là où il va aller. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot, poussé par l'attrait luxuriant de la vallée du Jourdain, comme un jardin de l'Éternel, un paradis, nous lisons verset 10, Lot choisit de s'y installer, bien que le lieu soit en fait au dehors des limites de la terre promise. Et, malgré le fait qui était connu à l'époque, que les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Verset 13. Lot a levé les yeux vers les choses de la terre, et en faisant cela et en suivant cet attrait, il s'est attiré des tourments quotidiens pour son âme. Et c'est ce que nous dit Pierre dans sa deuxième lettre, chapitre 2, verset 7. Abraham avait, quant à lui, les yeux fixés sur la promesse et Dieu lui enjoint, il le rencontre, il vient vers lui et il lui enjoint de lever les yeux vers la plénitude de cette promesse. Et vous vous rappelez, regarde au nord, au sud, à l'occident, à l'orient et tout ce pays, je le donnerai à ta postérité. Et bien entendu, comme nous l'avons relevé, cela vient bien plus loin que Canaan. Et Abraham le savait. Cette promesse, la plénitude de cette promesse, c'est Christ, celui qui est promis depuis le début. Et il semble, quand nous arrivons au chapitre 14, il semble que Lot n'était pas le seul qui avait fixé les yeux sur l'opulence de la vallée du Jourdain, une vallée où il y avait par exemple de nombreux puits de bitume, comme aujourd'hui. Et il n'était pas le seul donc qui ait fixé les yeux sur cet endroit et qui avait répondu à l'attrait de cette vallée, de ce jardin de l'Éternel. Et cela nous amène donc à notre premier point, qui est des rois, donc pluriel, et des guerres, des rois, des guerres. Moïse, donc, ici, quand il écrit, remonte quelques années pour nous faire une leçon d'histoire. Le fait qu'il donne tant de détails sur les événements est aussi une leçon pour nous. Vous avez remarqué tous ces détails des rois et répétés plusieurs fois. Alors, ouais, je dois l'avouer, je me suis un peu entraîné pour ne pas me planter avec les noms, parce que ce n'est pas des noms très courants. Hein. Mais c'est pour nous une leçon. Ce bas monde que le croyant traverse comme un étranger, comme un pèlerin, ce bas monde, ce monde présent, c'est un chaudron en ébullition, continuellement en ferment. Et on le voit, il suffit d'allumer la radio, d'allumer la télé. Si ce monde offre des promesses de prospérité, de sécurité, comme la vallée du Jourdain, il n'est pas moins en continuel changement et il est conduit, il est assujetti par l'égoïsme de la nature humaine déchue. Et c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure, mais c'est vraiment le moteur qui est derrière l'esprit de ce monde, l'égoïsme de la nature humaine déchue. Celui qui, comme Lot, se laisse séduire par l'attrait de ce mirage, et celui qui suit cet attrait, qui se laisse prendre par ça, cet homme, cette femme, cet enfant se prépare bien des difficultés. Ainsi, vous qui êtes croyants, si vous êtes croyants, méfiez-vous des paillettes et des promesses du monde. Nous le disons. On dirait même amen à cela. Mais faisons-le. Faisons-le. Le psaume 37 nous enseigne que mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Nous voyons la sagesse de ce passage. Et d'ailleurs, c'est le verset 16 du psaume 37. Mais le verset 17 explique. Parce que le méchant va être brisé. Mais Dieu vient défendre, soutenir le juste. Alors, nous voyons la sagesse de ça. Oui, mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Mais franchement, il faut l'avouer aussi. L'abondance du méchant a quand même de l'attrait. De l'attrait parce que nous sommes humains. Et donc, nous avons besoin de toutes ces leçons, ces enseignements ici. Parce que ce n'est pas simplement la richesse, c'est-à-dire un compte en banque rempli ou un sac bien fourni. Non, c'est le désir, c'est la recherche de cela. C'est cet esprit qui veut se reposer sur cette richesse. Donc, l'image que nous avons ici, avec tous ces rois, tous ces domaines, tous ces royaumes, nous montre que le monde est en complet ferment et nous enseigne que ça n'est pas vraiment le lieu où il faut qu'on fixe nos regards. Ici, l'abondance de toute la plaine du Jourdain a excité la cupidité de pouvoir de plusieurs rois qui l'entourent à l'est et au nord. C'est un peu l'Arabie et puis côté oriental de la Turquie, l'Irak, enfin ces choses-là modernes. Pas mal de rois qui sont assez éloignés en fait, mais leur cupidité a été attirée par ce jardin de l'Éternel. Et environ une dizaine d'années avant les événements du chapitre 13, que nous avons vu la dernière fois, ces rois ont investi cette plaine du Jourdain et ils ont assujetti les 5 villes-états qui forment cette vallée, des villes qui sont elles-mêmes des royaumes. Et très probablement, ils les ont assujettis à un tribut annuel. Il fallait payer tous ces rois du Nord et ces rois de l'Est. Il est intéressant de remarquer que la première ou les premières guerres mentionnées dans l'Écriture se situent dans le Proche-Orient. Et rien n'a beaucoup changé, n'est-ce pas? Aujourd'hui encore, on voit une région qui est en ferment. Et pendant une douzaine d'années, les rois de la plaine ont payé le tribut annuel. Mais, nous dit le texte, la 13e année, ils se sont révoltés, probablement en arrêtant de payer. Alors, le résultat ne s'est pas fait beaucoup attendre. La 14e année, l'année suivante, au temps où les rois se mettent en marche, comme nous dit en d'autres endroits l'Écriture, la coalition qui avait assujetti ces rois de la plaine du Jourdain à l'origine se met en campagne. Et bien entendu, ils vont reconquérir la chose. Alors, avec sagesse, ils conquièrent tous les voisins de la plaine à l'est. Vous regarderez sur une carte à loisir. C'est toute la liste des gens qu'ils ont conquis avant de revenir contre Sodome et Gomorre. Donc, tous les voisins, afin de les couper d'une quelconque, de quelconques alliés qu'ils pouvaient avoir. Et puis ensuite, ils remontent vers cette plaine, ils conquièrent les Amalécites, les Amoréens, et puis ils font face aux cinq rois rebelles. Ce sont des rois de cinq villes, donc on n'est pas en train de parler d'armées énormes. Et c'est la déroute pour les rois de la plaine, la déroute. De façon à leur inculquer une leçon et à les humilier, les vainqueurs pillent toutes les richesses de Sodome et Gomorre et ils rentrent chez eux. Tout à fait classique. Dans l'affaire, nous lisons qu'ils enlevèrent aussi Lot avec ses biens. Remarquons en passant, c'est une petite parenthèse, n'est-ce pas, que Lot, qui au chapitre 13 était allé s'installer près de Sodome, auprès de Sodome, maintenant il est présenté comme demeurant à Sodome, au verset 2. Levez les yeux vers le monde et s'y attacher, mes amis, est une pente glissante et dangereuse. Et il n'y a pas besoin de faire d'efforts pour descendre le long de cette pente. Seul le poids suffit pour le faire. Et Lot est maintenant à Sodome. Enfin, il était à Sodome parce que le voilà maintenant arraché et emmené en esclavage. Et quelqu'un, un fuyard, nous est-il dit, vient avertir Abraham de la situation. Dès qu'Abraham entend parler de cela, il part immédiatement à la ressource de son frère, verset 14. Moïse, en utilisant cette expression, montre que Abraham, en fait, part par la foi. Parce que Lot est aussi un héritier de la promesse. Nous avons déjà vu cela la semaine dernière, n'est-ce pas? Abraham, avec une minuscule troupe, et probablement tout ce qu'il pouvait rassembler, 318, le chiffre est bien précisé pour souligner cela. C'est tout petit, contre quatre rois. Et il se met à la poursuite des rois vainqueurs. Et là, on voit, Abraham, c'est un homme qui est déjà âgé, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas le petit adolescent qui part comme ça dans un coup de tête. Non, il part par la foi. C'est-à-dire que, voyant sa petitesse, voyant le fait que ces gens-là ont pris un héritier de la promesse, il sait que Dieu va intervenir, va être avec lui. Il part par la foi. Et c'est important de souligner cela. Il rattrape les quatre rois vainqueurs, il les défait et il les poursuit jusqu'aux environs de Damas en Syrie. Et en faisant cela, il leur enlève probablement tout désir de revenir. On n'entend plus parler d'eux. En donnant tous ces détails, Moïse veut bien montrer qu'il n'y a aucune paix réelle dans le monde des hommes. Et combien grande est la folie et terrible le sort de celui qui s'y attache. Et il nous faut vraiment passer du temps à méditer sur cette vérité. Il n'y a aucune paix réelle. Lot a convoité l'affluence de la plaine, probablement pour s'entourer d'une certaine sécurité terrestre et être assuré. Si tu es riche, tu peux te défendre, n'est-ce pas ? Plus besoin de se fatiguer pour trouver des pâturages et d'être constamment en train de changer la tente de place. C'était quand même du travail, tout cela. Mais cette vallée luxuriante est un mirage qui lui coûte cher dans notre passage et qui lui coûtera cher jusqu'à ce qu'il disparaisse des pages de l'Écriture. Toutefois, nous remarquons que Dieu n'abandonne pas Lot. Lot est un homme juste, un homme de foi qui a été égaré et qui est égaré et qui n'est pas nécessairement un grand exemple. Mais l'Écriture atteste du fait que c'est un homme qui est juste et Dieu ne l'abandonne pas. Dieu ne l'abandonne pas. Il est clair que Moïse relate l'expédition d'Abraham sous une lumière inspirée et prophétique qui laisse apparaître la libération accomplie par un autre dont on a parlé dans notre présidence. Abraham est au repos parmi les chênes de Mamré. Il demeure là. Il est en alliance avec ses voisins. Il est en paix avec les voisins. Il est en paix avec lui-même. Il est tranquille. À l'annonce du sort de Lot, Lot s'est fait enlever, il est emmené comme esclave. Il aurait pu dire, « Eh bien, c'est bien fait. J'aurais pu te le dire. Tu as choisi la plaine, débrouille-toi. Maintenant, c'est ton affaire, n'est-ce pas ?» Mais non, non. Abraham ne réagit pas comme cela parce que c'est un homme de foi et Lot est son frère. Il va donc à sa rencontre, là où sa déchéance l'emmène, c'est-à-dire dans cet exil en esclavage, dans l'esclavage de ce puissant ennemi, Kedorlaomer et les trois autres. Faible d'apparence, Abraham détruit l'ennemi, il se saisit de Lot et le ramène dans la liberté. Et nous avons ici, bien entendu, et c'est ce que Moïse vise, nous avons ici une image très claire de Jésus-Christ, le Rédempteur. Bien entendu, Moïse ne pouvait pas donner les détails, mais nous avons là quand même une image très claire. Jésus-Christ, le Rédempteur, établi de droit dans la gloire divine, tranquille si on peut dire. Il a tout écarté pour le dessein de Dieu, dessein de rédemption de Dieu. Il a tout écarté, y compris sa gloire, pour aller arracher les frères qui lui ont été donnés par son Père, ceux que son Père lui a donnés dans l'Alliance. Il a réduit à l'impuissance celui qui sans cesse les tenait dans la crainte. Il a détruit l'acte d'accusation. Nous lisons dans le Nouveau Testament, cet acte d'accusation, cette loi qui sans cesse rappelait la malédiction qu'avait apporté leur péché. Et il les a amenés avec puissance dans la liberté des fils de Dieu. Voilà l'image qui est derrière cette expédition d'Abraham. Et nous devons la voir. C'est le filigrane, n'est-ce pas ? Et celui qui est croyant regarde cela et il sait que c'est ce que Christ a fait pour lui. Si la reconnaissance pouvait inonder le cœur de Lot, on peut imaginer Lot en train de revenir à Sodome et son cœur déborde de reconnaissance envers Abraham, à combien plus forte raison notre cœur vis-à-vis de Jésus-Christ. Et nous avons besoin d'être exhortés sans cesse à cela. Et celui qui ne croit pas, celui qui voudrait croire, mais encore n'a pas reçu cette puissance de croire, cette puissance de vie, eh bien qu'il sache que Dieu a désigné et a envoyé un libérateur qui est vainqueur et qui a fait ce que nul homme ne peut faire. Ces mots, tout est accompli. Aucun homme ne peut les prononcer, sinon Jésus-Christ. Jésus-Christ les a prononcés alors qu'il était en croix, alors qu'il donnait sa vie. Des affaires de roi, des mouvements incessants que la génération suivante, oublieuse, va répéter continuellement. Dans le monde, mes amis, on parle de paix. On n'arrête pas de parler de paix, mais on récolte la guerre. Mais dans ce même monde, dans ce monde difficile, Dieu agit. Et c'est ce que nous voulons voir maintenant. Et donc nous venons à notre deuxième point. Premier point, des rois des guerres. Maintenant, un roi, la justice et la paix. Abraham rentre de sa victoire et il est abordé par le roi de Sodome. Alors, est-ce que c'est le même qui a fui et s'est caché dans un puits de goudron? On ne sait pas. Le texte n'est pas très clair. Quand le roi de Sodome et le roi de Gomorre sont tombés dans un puits de bitume, il est dit ici, c'est peut-être qu'ils se sont cachés. Ou alors, c'est peut-être qu'ils sont tombés et puis que, voilà, c'était la fin d'eux. Mais le roi est mort, vive le roi. On ne sait pas. En fait, le nom Béra, qui est au verset 2 pour décrire le roi de Sodome, ça semble être plus une description de l'homme que son patronyme. Parce que le mot signifie « dans le mal ». Et on sait que Sodome était vraiment un lieu de méchanceté. Peu importe. De toute façon, l'homme est exactement comme il est décrit. Il vient vers Abraham avec un dédain, avec une arrogance à peine voilée. À peine voilée. Et c'est une belle, ou une illustration fidèle plutôt, de l'esprit du monde. L'esprit du monde ne connaît pas la repentance, ne connaît pas l'humiliation. Et en réponse, Abraham refuse d'avoir quoi que ce soit à faire avec cet homme. Il n'y aura pas d'alliance avec lui. La lignée de la promesse n'a rien à gagner, mes amis, des miettes du monde impie. Ceci étant dit, il faut qu'on saisisse la force de cela. Le butin qu'Abraham avait ramené, le butin que les quatre rois avaient dérobé à Sodome, c'était probablement pas mal de richesses. Abraham mettait une croix sur quelque chose qui était désirable aux yeux des hommes. Ce n'est pas simplement « je n'ai rien à faire avec toi hein. ». Non, c'est un principe qui est face à une grande richesse. Mais Abraham n'a rien à faire avec ça. Et encore, voilà un homme de foi. Il voit l'énorme richesse du monde comme des miettes, comme quelque chose qui ne peut pas l'enrichir. Pourquoi ? Parce qu'il est bien plus riche. Celui qui a les yeux attirés par ce qu'il peut gagner de la terre est bien pauvre, si tant est qu'il est spirituel même. L'entretien avec le roi de Sodome est vite traité et il se révèle n'avoir aucune importance dans le texte. C'est comme ça, c'est là. Mais franchement, on ne peut pas tirer grande leçon de cela, à part ce que nous venons de voir. Mais en plein milieu de ce récit, Moïse introduit un autre entretien. On en a déjà parlé plusieurs fois ici. C'est la rencontre entre Abraham et Melchisédek. Ah, Melchisédek. Qui est cet homme ? Qui est cet homme ? Beaucoup d'encre a coulé sur le sujet. Alors, certains pensent que c'est une apparition pré-incarnée de Christ, ce qu'on appelle une théophanie ou une christophanie. D'autres vont même jusqu'à dire que c'est un ange. D'autres encore disent que c'est le patriarche Sem qui vient à la rencontre de celui qui porte la promesse dans un autre chapitre de l'histoire. Sem, c'est celui qui a été dans la lignée de la promesse après Adam. Alors voilà, maintenant, c'est Abraham qui est l'héritier de la promesse et Sem vient lui parler. Alors, il est possible que Sem soit encore en vie, d'après généalogie. Certains pensent que les généalogies ne sont pas exactes, d'autres pensent que oui. Mais de toute façon, rien n'est dit pour confirmer cette hypothèse. Et le Nouveau Testament, pour sa part, montre avec clarté que Melchisédek est un personnage à part entière. C'est un homme historique. Et donc, il est plus sûr de se contenter de dire qu'il est un personnage énigmatique, mystérieux. Bien qu'il soit tout à fait historique, qu'il ait existé, qu'il était roi de Salem, ce qu'on sait de lui et ce qu'on ignore de lui ont tous deux une valeur typologique pour enseigner au sujet de ce que Dieu fait. Et c'est ce que Moïse fait ici. Il n'est pas en train de nous donner simplement un petit morceau d'histoire, de façon à ce qu'on soit plus intelligent. Non, il est en train de nous montrer, il est en train de souligner qu'est-ce que Dieu fait. Et c'est très important. Melchisédek, lisons-nous, est roi de Salem. Bien entendu, cela nous indique que c'est un lieu qui a un lien avec la paix. Son nom, Melchisédek, le nom lui-même signifie roi de justice. Donc on a ici un roi de justice qui est roi de Salem, roi de la paix. Et ça n'est pas simplement donné comme ça, ça cette valeur de type. Et il est clair que d'une manière ou d'une autre, dans une mesure qui n'est pas précisée, c'est un homme qui croit et qui sert le Dieu très haut. C'est intéressant cette remarque, n'est-ce pas? Le Dieu très haut, il est sacrificateur du Dieu très haut. Alors, dans l'original, c'est El Elyon. C'est le Dieu des dieux, si on pourrait dire. Alors, dans un des pays où je voyage, ils ont ce mot pour la divinité, c'est Maou. Mais pour l'éternel, ils parlent de Maou Maou. C'est un peu comme ça ici. C'est le Dieu très haut. Alors, comment est-ce que Melchisédek est venu là? Comment est-ce qu'il est sacrificateur? On ne sait pas. Il survient sur la scène de l'histoire et il laisse là. Rappelons-nous qu'à l'époque d'Abraham, par exemple, il y avait Job. Et Job avait une connaissance de l'Éternel très développée, même presque néo-testamentaire. Et donc Melchisédek est dans cette ligue-là. Il sert et il croit le Dieu suprême. Et lors de la rencontre ici, il apporte du pain et du vin. Et ainsi, il indique que entre Abraham et lui, entre deux hommes de foi, à qui a été faite la promesse, il y a union. Donc vous voyez, Melchisédek déclare l'union qui est entre lui et Abraham. Abraham est un homme de Dieu. Melchisédek est un homme de Dieu. Et en plus, Melchisédek est donc sacrificateur du Dieu très haut. Il est roi de justice, roi de paix et sacrificateur du Dieu très haut. Et ainsi, de manière typologique, c'est-à-dire en annonçant quelqu'un qui vient, c'est cela, hein, comme une ombre. Ainsi, il bénit Abraham. Et, vous aurez remarqué, il bénit le Dieu d'Abraham. Ça semble un peu bizarre, n'est-ce pas? Mais ça n'est pas bizarre du tout, parce que en faisant ainsi, il se montre comme un vrai sacrificateur. Il est médiateur entre les deux. Il bénit l'un et il bénit l'autre. Et nous avons donc cette image que nous verrons tout à l'heure de celui qui unit les deux et qui bénit les deux. Donc, ici, il fait l'œuvre d'un médiateur, d'un sacrificateur. Et en réponse, Abraham manifeste la supériorité de Melchisédek et de ce qu'il représente en lui donnant la dîme. On paye à celui qui est supérieur, comme le roi de Sodome a payé le tribut à Kedorlaomer, vous voyez. Alors, Abraham a vu que Melchisédek représente quelqu'un de plus grand que lui. Mais c'est Moïse qui écrit là. Et Moïse, il connaît tout le sacerdoce lévitique. Et il est en train d'indiquer qu'il y a quelque chose d'autre que le sacerdoce lévitique. Parce qu'en Abraham, il y a déjà les Lévites. C'est ce que la lettre aux Hébreux souligne. On le verra dans un moment, vous voyez. Donc, ici, on a l'inférieur qui reconnaît le supérieur. Et c'est important. C'est ce que Moïse veut vraiment nous faire remarquer. Et en fait, et la dimension énigmatique et mystérieuse au sujet de Melchisédek montre qu'il y a ici quelque chose de plus qu'une simple rencontre historique, comme je l'ai dit. Il y a une révélation de ce que Dieu fait. Ici, c'est l'alliance qui entre dans l'histoire, qui fait une incursion dans l'histoire. On a déjà vu cela ensemble, je pense, il y a quelque temps, pour ceux qui sont ici. Le passage où Melchisédek apparaît, ça vient un peu, comme on pourrait dire, comme un cheveu sur la soupe. Je m'explique. Vous lisez le texte, là, et vous enlevez les versets 18 à 20 qui concernent Melchisédek, n'est-ce pas ? Après qu'Abraham, le roi de Sodome, sortit à sa rencontre, verset 21, le roi de Sodome dit à Abraham, et ainsi de suite. On lit ça, ça fait le sens, c'est bon, hein ? On n'a pas besoin du reste. Mais Moïse, inspiré, il amène les versets 18 à 20 au milieu. Et en fait, ce petit passage, cette petite incursion n'a rien à faire avec le texte. Absolument pas. Et c'est la manière par laquelle, inspiré de Dieu, Moïse montre que nous avons ici quelque chose qui n'appartient pas au monde des hommes. Oui, les hommes, il y a eu les guerres, maintenant il y a distribution du butin, ou refus d'Abraham de partager le butin, et tout ça. Mais au milieu, il y a quelque chose d'autre qui vient. Et Moïse le met, comme je dis, entre guillemets, comme un cheveu sur la soupe pour montrer que ça n'appartient pas aux affaires des hommes. C'est quelque chose de différent. Dans son alliance, Dieu fait quelque chose de nouveau. Et nous retrouvons ça dans les prophètes plus tard. Quelque chose de complètement différent, sans relation, ni lien, ni apport de la part des hommes. Et c'est ça la rédemption. C'est quelque chose qui est en faveur de la lignée de la promesse, mais qui ne tire rien des affaires des hommes. Abraham a sauvé et libéré Lot et les gens de Sodome, mais l'un, Lot, comme les autres, les gens de Sodome, retourne à Sodome, l'un pour son tourment continuel, les autres pour mettre un comble à leur méchanceté jusqu'au jugement de Dieu. Mais voilà ici, au milieu de tout cela, la révélation que Dieu fait une chose nouvelle qui ne dépend pas de l'homme. Et c'est très important. Dans les prophètes, nous avons cette prophétie. L'Éternel fait une chose nouvelle. Et là, il y a un passage qui est très obscur. La femme entourera l'homme. Et quand on arrive à l'incarnation de Jésus-Christ, on comprend très bien de quoi il parle. Quelque chose qui ne fait pas entrer l'agence de l'homme du tout. Ici, c'est un autre développement de la promesse. Cette promesse de la postérité de la femme. Quelque chose qui ne vient pas à travers la généalogie de l'homme. Et donc, quand nous voyons Melchisédek, nous essayons d'avoir les yeux d'Abraham qui, bien entendu, a bien en conscience cette promesse d'origine. Et Moïse qui écrit aussi. Et il voit tout ce qui se passe là et il dit, il faut que je montre cela comme étant quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose qui n'a rien, qui n'a aucun lien avec la scène historique. Et c'est exactement notre passage ici. Donc, si Melchisédek a cette valeur typologique, et le Nouveau Testament témoigne de cela dans de nombreux passages, notamment dans les Hébreux, n'est-ce pas ? Mais pas seulement cela. Passons de Melchisédek, le roi de justice et de paix, à ce qu'il représente. cet autre sacrificateur. Et donc, nous en arrivons à notre troisième point, qui est le roi, et là, le c'est en majuscule, n'est-ce pas, une alliance nouvelle. Donc, les rois des guerres. Un roi, la justice et la paix. Et maintenant, le roi, c'est une alliance nouvelle. Donc, voyons, on approfondit là. Avec Melchisédek, Moïse aborde ce que Dieu fait dans l'alliance de grâce pour la rédemption de ses élus. C'est un passage important. Cette œuvre ne vient pas des hommes, c'est une œuvre nouvelle. Et je le répète et je le répète pour vraiment le graver dans nos esprits. C'est quelque chose de nouveau. Et dans l'Écriture, nouveau ne veut pas simplement dire qu'on n'a pas vu avant. Ça veut dire complètement différent. C'est quelque chose qui n'appartient pas au même monde, au même registre. Cette œuvre ne vient pas des hommes, c'est une œuvre nouvelle. Et le passage ici n'appartient pas au contexte. C'est une œuvre supérieure. Et nous le voyons parce que Abraham donne la dîme de ses biens à Melchisédek et en lui, comme je l'ai souligné, les sacrificateurs de l'ancienne alliance donnent la dîme, montrant la supériorité de ce sacrificateur de la nouvelle alliance. Nous allons le développer un tout petit peu plus. David, bien des années après, a bien compris la chose. Vous voyez, ce qu'on oublie parfois, c'est que ces gens-là avaient le temps, contrairement à nous. Ils avaient le temps, ils étaient moins sollicités, ils avaient le temps de réfléchir à cette révélation des générations précédentes. Et David réfléchit à ces choses-là bien des années plus tard, et il comprend. Lui, le roi choisi de Dieu, au contraire de Saül qui était choisi par le peuple, lui, le roi choisi de Dieu pour son peuple, est maintenant établi sur tout le peuple. Après ses années d'exil à Hébron, il est maintenant à Jérusalem, qu'il a conquise, et il est le roi sur tout le peuple que Dieu lui a donné. Et à Jérusalem, maintenant, il y a l'Arche de l'Alliance. Vous vous rappellerez comment l'Arche de l'Alliance avait été ramenée à Jérusalem, ou amenée plutôt. Il y a donc côte à côte le roi du peuple de Dieu et le souverain sacrificateur. Et c'est la première fois que les deux sont ensemble, et ils sont ensemble à Jérusalem. Et le mot est important. En plus, Dieu réitère son alliance avec David et il lui promet une descendance royale pour toujours. David associe dans sa tête tous ces mots. Roi choisi, sacrificateur, Jérusalem, postérité royale et éternelle. Et cela le ramène dans ses réflexions, au seul endroit dans l'Écriture où ces choses sont unies, Melchisédek. Et en regardant cela, il voit lui aussi que ce passage de Melchisédek n'appartient pas au contexte. Et lui, à qui la promesse est renouvelée, comprend que Dieu fait une alliance nouvelle. Non pas l'alliance à travers les sacrificateurs qui ne cessent de mourir, il n'y avait pas de siège dans le tabernacle, qui ne cessent de servir, ils ne cessent de disparaître et d'être remplacés. Et il comprend, Dieu est en train de faire une alliance nouvelle, ou Dieu fait une alliance nouvelle. Et c'est ainsi que lui aussi révèle ce Messie, celui que Dieu envoie pour accomplir le vrai salut, ce roi, avec un grand R, dont toutes les ombres de l'Ancien Testament sont une annonce. Et si vous venez avec moi dans le psaume 110, quand Philippe a annoncé le psaume 115 tout à l'heure, j'ai pensé, ouais, on est passé pas très loin, n'est-ce pas? Qui est un psaume de David, psaume 110, et nous allons le lire, vous allez voir. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, oracle de l'Éternel, révélation de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ça, c'est un passage un peu obscur. C'est ton peuple aura toute la volonté nécessaire quand tu exerces ta puissance dans la sainteté. Voilà en fait ce qui est dit. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré et il ne se repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Vous voyez David ici, il voit qu'il y a autre chose que ce qui se passe dans un autre endroit de Jérusalem. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant sa marche. C'est pourquoi il relève la tête. Ici, David voit, ou tout au moins, il est utilisé pour révéler le fait qu'il y a quelqu'un qui vient avec une alliance nouvelle. Parce que Melchisédek n'est pas un sacrificateur selon la ligne lévitique. C'est quelqu'un d'autre, on va le voir dans un moment. Mais en plus, celui-ci, comme David le dit, « Le Seigneur, l'Éternel dit à mon Seigneur. » Il y a quelque chose qui est beaucoup plus que simplement un libérateur. C'est un libérateur qui vient, qui n'a ni commencement ni fin. On va voir ça dans un moment. Et puis, on en arrive dans le Nouveau Testament. Un temps où les élus issus de l'Ancienne Alliance sont tentés de retourner à ces ombres. Je parle de la lettre aux Hébreux. Voilà les gens. Ils sont issus du peuple juif, mais ils ont reçu la vie nouvelle, cette vie de la Nouvelle Alliance. Mais comme les choses durent et les épreuves sont terribles, ils sont tentés de retourner aux ombres de l'Ancien Testament, c'est-à-dire le temple, c'est-à-dire le sacerdoce lévitique, c'est-à-dire les sacrifices chaque année, et ainsi de suite. Alors l'auteur de la lettre aux Hébreux pense à Genèse. Il pense à David et il noue tous ces fils de cette révélation pour nous. Voilà un roi qui vient, le roi. En fait, il est déjà venu. Et toute l'ancienne alliance l'annonce et regarde vers lui. En fait, c'est ce qu'il dit aux Hébreux. Il dit, mais vous voulez retourner? Mais dès que vous allez retourner, votre regard va être tourné vers celui que vous avez embrassé. Dans son chapitre 7, la lettre aux Hébreux montre que pour Dieu, l'Israël de l'Ancien Testament n'était qu'une ombre. Oui, cette ombre pointait avec exactitude vers la vraie alliance, mais cette ancienne alliance ne pouvait pas parachever l'œuvre et le dessein de Dieu. Comme le dit Paul, la loi, qui est en fait le principe actif dans l'ancienne alliance, la loi est juste et bonne. Elle manifeste la volonté de Dieu à l'égard de sa créature. Le problème de la loi et le fait que la loi ne peut pas sauver, c'est qu'elle fait intervenir un élément qui est la faiblesse de la chair et que sans cet élément, elle ne peut pas réussir. Mais avec cet élément, elle ne peut pas réussir. Donc c'est échec et impossibilité complète. On ne cesse de le répéter, n'est-ce pas? Mais c'est vrai. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux montre que l'alliance qui est en Christ est supérieure, c'est une autre alliance. Elle ne s'appuie plus sur la faiblesse de l'homme, mais elle est éternelle. Et on va aller dans le chapitre 7, parce que ça vaut le coup de nous laisser pénétrer par cela. Regardez les premiers versets. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem. Vous voyez comment l'auteur, là, il utilise toute la typologie qui est là. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il alla au-devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois, et il le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, Melchisédek, d'après la signification de son nom, il est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Mais la loi n'amènera jamais la paix. Abraham lui-même était en paix personnellement, mais il était comme un fugitif ou comme un pèlerin dans cette terre promise. Verset 3, il est sans père, sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Alors, bien entendu que Melchisédek, le personnage historique, est né et il est mort, n'est-ce pas? Mais là, l'auteur prend la typologie. La révélation ne mentionne rien de cela et donc indique quelque chose. Et quelle est la déduction de l'auteur de la lettre aux Hébreux? Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Et c'est ce que David a compris. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Les autres ne pouvaient pas, parce qu'ils mouraient. Considérez, verset 4, combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, là on parle de l'ancien ordre, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Les sacrificateurs lévitiques avaient le droit de lever une tribu, si on peut dire, de leurs frères, la dîme. Mais en fait, ils étaient égaux. Mais de par leur sacerdoce, en fait, ils servaient leurs frères. Mais lui, il ne vient pas de cette ligne du tout. Il ne vient pas du tout de cela. Et en fait, il a reçu la dîme d'Abraham, donc il est supérieur à ce qui va venir d'Abraham, c'est-à-dire le sacerdoce lévitique. Et il a béni celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur, ce que nous avons vu. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant, ni commencement de vie, ni fin de jour. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme des autres Israélites, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Donc d'un côté, on a ce qui est produit par Abraham, qui finit avec la ligne lévitique et l'ancienne alliance. Ce qui est au-delà, c'est la promesse qui a été donnée à Abraham. Mais la promesse qui a été donnée à Abraham ne vient pas d'Abraham. Elle vient à Abraham, mais elle est promise en celui-là qui n'a ni commencement ni commencement de jour, ni fin de vie. Donc vous voyez, on a ici, de tout cela, il ressort que l'ancienne alliance doit s'effacer devant la nouvelle. Elle pointait, tout simplement. Et une fois qu'on est arrivé à destination, on n'a plus besoin des poteaux indicateurs. C'est fini. On n'a même plus besoin du GPS ou autre chose comme ça. C'est fait. Non. On ne peut pas être sous deux alliances à la fois. Une alliance qui demande les œuvres et une alliance qui se passe des œuvres. L'ancienne alliance étant abolie par la venue de la nouvelle alliance, le sacerdoce qui l'administre, la règle qui la régit, c'est-à-dire la loi, sont aussi abolis. C'est-à-dire qu'ils sont rendus caduques, ils ne sont plus opérants. Maintenant, il y a un sacrificateur meilleur d'un autre ordre et une loi, c'est-à-dire un principe qui est d'une autre nature. Et c'est ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux continue de développer. Verset 11. Si donc, la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, l'ancienne alliance, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse à un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi, c'est-à-dire de principe actif, opératoire. En effet, celui de qui ces choses sont dites, Christ, appartient à une autre tribu, Judas, n'est-ce pas, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Judas, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce de l'ancienne alliance. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, c'est-à-dire les prescriptions que Moïse avait données à Israël, mais selon la puissance d'une vie impérissable, sans commencement de jour ni fin de vie. Car ce témoignage lui est rendu à Christ. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Et là, nous retrouvons notre psaume 110. Nous retrouvons ce que David a compris, qu'il a d'ailleurs, soit dit en passant, plongé dans l'adoration, puisqu'il a fait un psaume. Verset 18, « Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Elle pointait seulement, car la loi n'a rien amené à la perfection. Et cela a amené à l'introduction d'une nouvelle espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et cela n'a pas eu lieu sans serment, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment. C'est une prescription seulement. Mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui a dit, « Le Seigneur a juré et ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Et quand on a une alliance plus excellente, mes amis, à quoi sert-il de retourner à l'ancienne alliance, qui est tout à fait l'accent que donne l'auteur de la lettre aux Hébreux, mais c'est un accent dont nous avons besoin nous-mêmes. Le sacrifice unique que Christ a offert est lui-même. Regardez au verset 27 de ce chapitre 7, il parle de ce sacrificateur qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs de l'ancien temps, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. En s'offrant lui-même. Le sacrifice de Christ, unique, c'est lui-même. Il ne peut pas se sacrifier de nouveau. Au contraire des sacrificateurs de l'ancienne alliance, il n'avait pas de péché à lui qu'il lui fallait expier. Sa mort est donc vraiment celle d'un remplaçant, quelqu'un qui meurt pour d'autres. Les sacrificateurs lévitiques étaient des hommes qui avaient des faiblesses. Ils devaient sans cesse présenter des sacrifices pour eux-mêmes et puis ensuite présenter des sacrifices devant le peuple qui annonçait la venue du sacrifice. Lui, le sacrificateur ultime, le roi davidique ultime, il est parfait, il est éternel. Son alliance ne repose pas sur l'obéissance de la chair, ce qui faisait la faiblesse de l'ancienne alliance, mais uniquement sur son obéissance parfaite. Et elle engendre dans le cœur recréé l'obéissance qui plaît à Dieu. C'est-à-dire que celui qui bénéficie de cette nouvelle alliance, en fait, la vie de ce sacrificateur, la vie obéissante parfaitement de ce souverain sacrificateur ultime, coule en lui maintenant. L'obéissance de la foi. C'est l'obéissance qui plaît à Dieu, qui croit sa parole. Et l'efficacité de cette alliance est éternelle. Pourquoi ? Parce que le sacerdoce est éternel. C'est un sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et donc, en donnant la dîme à ce Melchisédek, Abraham reconnaissait le dessein de Dieu. En fait, Abraham comprenait beaucoup de choses. On a tendance à dire, ces saints de l'Ancien Testament, ils voyaient seulement de façon floue, pâle, alors que nous, maintenant, dans le Nouveau Testament, non, il a eu très, très, très clairement, il reconnaissait le dessein de Dieu, un dessein qui, loin d'être limité à une famille, c'est un dessein qui est un salut par grâce dans le sacrificateur roi éternel qui vient. Par la foi, Abraham est un croyant de la Nouvelle Alliance. Les rois de ce monde, mes amis, promettent la paix et ils ne donnent que la guerre. On le voit chaque jour. Rien n'est stable avec eux. Regardez, les soubresauts toutes les 4 ou 5 ans, là où il faut recommencer avec les élections et tout. L'abondance de la plaine et sa postérité ne sont que des invitations à la manifestation des cœurs humains méchants, égoïstes, arrogants, futiles. C'est ce que nous voyons. Mais dès le début, dès l'origine et même avant la fondation du monde, Dieu vise un but qui est la rédemption d'un peuple par celui qu'il envoie, un sacrificateur éternel qui siège à jamais sur son trône, à sa droite, la place d'autorité. Melchisédek est une image mystérieuse, énigmatique, mais c'est une image juste. David, lui aussi, c'est un poteau indicateur. Et puis vient Christ, sans commencement de jour, ni fin de vie, royal, mais aussi détenteur d'un meilleur sacerdoce, d'une alliance plus excellente. Et la question se pose, où est-ce que se place ma foi? Dans le monde? Dans ma raison? Dans ma sagesse? Ma foi se place-t-elle dans des systèmes d'hommes? Est-ce que je suis évangélique, protestant ou ainsi de suite, baptiste? Est-ce que ma foi se place dans des hommes, des grands noms, dont le souffle est court et passager? Ou bien est-ce que je me saisis dans la puissance de l'Esprit de celui que Dieu a marqué de son sceau, celui à qui il a juré qu'il est un sacrificateur éternel? Seul son sacrifice, seule sa victoire ouvre la porte de la victoire, la porte de la gloire. Que le Seigneur nous donne de comprendre ces choses, mais plus que simplement les comprendre, d'être saisi par ces choses, qu'il nous donne de secouer son trône de la grâce jusqu'à ce qu'il nous donne cette union de cœur avec lui, dans ce sacrificateur éternel, selon l'ordre de Melchisédek, et qu'il soit glorifié. Amen.